Hier, on est venu me demander, il y a des gens qui veulent commencer un plan de lecture annuel, passer à travers la Bible en un an, et puis on en a trouvé un, mais on sait qu'il y en a d'autres. Alors, on va essayer d'en trouver d'autres, mais si jamais vous voulez vous procurer ce plan de lecture de la Bible en un an, vous allez au kiosque, c'est là qu'on va essayer de trouver. On peut en faire imprimer aussi comme on veut. Juste avant de commencer, on veut vous inviter à un événement pas mal spécial que nous aurons vendredi qui s'en vient avec Asmik Jean-Jacques. Asmik, qui est un chef de gang à Montréal, puis qui a passé plusieurs années là, dans la rue et à faire une sorte de crime et a fait de la prison pendant quelques années. Et Asmik a tout un ministère auprès des gens de la rue. Il a un ministère, deux, trois ministères entre autres, là, je pense même qu'il est pasteur. Mais une des choses qu'il a particulièrement à cœur, c'est d'aller rejoindre les gens de la rue. Comme vous allez voir dans un reportage qu'on va vous montrer maintenant, juste pour vous donner un petit aperçu de cet homme qui s'en vient vendredi, le témoignage. C'est lui qu'on va avoir vendredi soir, Asmik Jean-Jacques. Alors, ne manquez pas l'occasion de venir entendre ce témoignage. Et ce témoignage pour pas juste ceux qui luttent avec des dépendances ou vivent ce style de vie. Il y a des gens bien tranquilles et dans la société. Mais à quelque part dans le cœur, le message qu'Asmik livre s'adresse à chacun d'entre nous. On va le voir, vous allez le voir quand vous allez l'entendre. Et c'est absolument, vraiment, vraiment bien, absolument bien, là. Je l'ai entendu et je vous encourage fortement à venir vendredi soir à l'école Le Versant, petit carton. Vous avez probablement, d'ailleurs, c'est sur le bulletin, la page couverture du bulletin ce matin. Eh bien, ce matin, on va continuer notre série qu'on avait commencée il y a quelque temps sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une personne mystérieuse dans les Écritures. On n'entend pas beaucoup parler du Saint-Esprit. On entend plutôt parler de Dieu dans l'Ancien Testament, de Jésus-Christ, quand on arrive au Nouveau Testament. Et le Saint-Esprit arrive ici et là dans les Écritures, mais on s'est arrêté pour essayer de voir qui est le Saint-Esprit et voir qu'est-ce qu'il fait, quelle est son œuvre dans la vie du croyant. On a commencé avec le premier message, et ce qu'on a fait, le premier message, on a regardé que le Saint-Esprit avait un rôle de consolateur auprès de nous. Même d'ailleurs, le terme dans l'original était « avocat ». Il est vraiment comme un avocat qui est toujours près de nous, prend notre défense et nous accompagne. Le deuxième message, nous avons regardé que l'Esprit est l'Esprit de vérité. C'est vraiment lui qui corrige l'erreur, qui nous ramène sur la bonne piste. Et d'ailleurs, ça commence avant même qu'on vienne à la foi, alors que Jésus nous révèle, que l'Esprit Saint nous révèle qui est Jésus. C'est lui qui fait qu'on s'arrête à un moment donné, puis on se pose des questions sur Jésus-Christ, puis tranquillement, le voile saute de nos yeux, puis on commence à comprendre, ou mieux en tout cas, qui est Jésus. Ça c'est son rôle à l'Esprit-Saint. Moi, je me rappelle d'avoir été sur la route comme représentant, puis à un moment donné, j'étais avec un de mes clients, et à ma grande surprise, je pense que je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, il a commencé à me parler de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'était dans la région ici, il a commencé à me parler de Jésus-Christ. Mais c'était comme si c'était la première fois que j'entendais parler de Jésus. Mais comment ça se fait? J'avais déjà entendu parler de Jésus-Christ avant, mais cette fois-là, c'était comme différent. Je voyais Jésus différemment. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit de faire cela, de braquer les projecteurs sur la personne de Jésus-Christ et nous révéler qui est Jésus. C'est son rôle. Il est l'Esprit de vérité. C'est lui qui a un rôle, même lorsqu'on vient à Jésus-Christ, de corriger l'erreur, les mensonges qu'on peut entretenir. Et on entretient beaucoup de mensonges dans notre dialogue intérieur. On se compte toutes sortes de choses. Et l'Esprit-Saint revient et a ce rôle-là, un rôle très précieux et important. Troisième message, c'était sur que l'Esprit-Saint convainc, il conduit, il glorifie Jésus-Christ. Il a un rôle d'élever Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Le quatrième message, on a vu que l'Esprit est appelé l'Esprit de vie aussi. C'est lui qui nous donne la nouvelle naissance, qui nous donne cette nouvelle vie spirituelle. La Bible dit qu'à cause du péché, nous sommes spirituellement morts. Et c'est quoi un mort? Lorsque tu regardes un mort, c'est... Il ne répond pas à l'amour que tu aimerais lui donner. Il ne répond pas, tu as beau lui parler, même si tu es quelqu'un de très proche, il ne répond pas. Et il est immobile. Et la Bible dit que notre péché a fait ça en nous. Le péché a comme tué une vie spirituelle. Nous sommes morts spirituellement. Et c'est l'Esprit Saint qui donne cette nouvelle vie miraculeuse, divine, qui fait que, tranquillement, on veut Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint qui crée cette nouvelle vie éternelle en nous. Nous avons vu aussi dans notre cinquième message que l'Esprit est l'Esprit du Fils et que l'Esprit Saint nous adopte. Il nous inclut dans une nouvelle famille maintenant, qui est l'Église. Vous autres, il n'y a pas personne ici, je ne vous connaîtrai pas du tout, absolument pas, si ce n'était pas Jésus-Christ. Absolument pas, je serais dans la région de Montréal, j'aurais une autre vie, puis probablement une vie bien différente de ce que je fais là. Et là, j'ai découvert une belle famille. Il y a des gens qu'on va rencontrer. Joël, mon gendre, est allé en Ukraine pour adopter deux fils, les deux Ukrainiens. Il est rentré dans une église baptiste en Ukraine. Il est à l'autre bout du monde. Il a commencé à parler à des chrétiens là-bas, puis c'est comme si ça faisait 10 ans qu'il les connaissait. Et c'est quoi qui fait ça? C'est l'Esprit Saint qui nous unit les uns aux autres. On nous a adoptés dans une nouvelle famille maintenant. Nous sommes les enfants de Dieu. Et ça, c'est magnifique de découvrir la famille de Dieu. Aujourd'hui, on veut regarder l'esprit de sainteté. Et on va découvrir trois œuvres que l'Esprit Saint accomplit dans nos vies, nous qui recevons, qui avons reçu l'Esprit. Alors, le passage qu'on va lire, il faut comprendre maintenant, c'est un passage que, lorsque les nouveaux arrivent, certains passages sont plus faciles que d'autres. Le passage que nous allons lire, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un langage qui sort un peu de notre culture. C'est un contexte très juif. L'apôtre Paul s'adresse à des juifs à Rome et c'est un langage pas mal juif. Quand on n'est pas trop habitué, il y a certains vocabulaires qu'on peut se décourager par ça, mais il ne faut pas se décourager. On continue et on regarde, il y a des choses qu'on comprend moins, on met ça de côté puis on continue. C'est un peu comme, c'est une autre culture, hein? La communauté juive et tout ça, c'est surtout à l'époque du Nouveau Testament, c'est une autre culture, tu rentres dans un autre monde. Juste nous-mêmes, il y a quelques semaines, à la semaine de relâche, ma fille est venue chez nous avec ses 7 enfants, et elle a adopté ces 2 Ukrainiens-là, puis là, on a pu les rencontrer pour la première fois, les 2 Ukrainiens, puis je vous dis que ça parlait russe pas mal chez nous. Et on ne comprenait absolument rien. Je suis certain qu'on rit de nous autres, qu'on fait toutes sortes d'affaires. Et puis, à un moment donné, j'ai trébuché un petit peu dans l'escalier, puis Noah, il a commencé à partir, il riait. Puis là, il parlait en russe à son frère, puis je suis certain qu'il riait de moi, puis il avait bien du plaisir, en tout cas. Moi, j'avais aucune espèce d'idée ce qu'il disait. On a rattrapé une couple de mots, on a appris une couple de mots, presque une semaine chez nous, comme babouchka. Babouchka, c'est grand-maman, et moi, je suis dadouchka. Dadouchka, c'est grand-papa, et d'ailleurs, le petit m'appelait Dadouche. Hey, « Dadouche! » Il partait là, en russe. Hein? Je comprenais Dadouche, fini. Je me suis fait même rentrer une petite application sur mon iPhone, puis je disais « Attends une minute. » Puis là, j'écrivais en français, c'était quoi? Puis ça le traduisait, puis ça disait « audio ». Fait que tu pèses, ça parle. Donc, on pouvait, c'était pas super vite, là, mais au moins, on pouvait un peu communiquer. On est allé souper, justement, chez Andrei et Ruslan, bien gentil, toute la famille, on a pu parler avec Natalia et Maria. Et là, les autres comprenaient. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais en tout cas, c'était vraiment, c'était bien parce que c'était bon pour les enfants, ils ont pu vraiment connecter avec eux. Puis là, on s'est aperçu que c'est vraiment une autre culture. Par exemple, le petit Liane est chez nous, puis à chaque fois qu'il entendait la musique, il commençait à danser. Et là, il n'a pas dansé comme les Américains, là, tu sais, comme les bras et tout ça, là. Non, il dansait à la manière des Russes. Tu sais ce que tu vois à la télévision, là? Pour lui, à chaque fois qu'il entendait de la musique, il commençait à danser comme les Russes. Là, dans le fond, c'est vrai, c'était russe. Alors, il dansait comme ça. Puis, il y avait beaucoup de plaisir. On avait beaucoup de plaisir à le regarder faire. Puis là, on s'est aperçu aussi que ma fille me racontait que c'est une autre culture, l'Ukraine. Et ma fille a resté presque 3 mois là-bas, puis elle a appris que la culture est différente. Par exemple, ce qu'il faut surtout pas que tu fasses quand tu veux faire plaisir à ta femme, c'est de lui apporter une douzaine de roses. « Mesdames, est-ce que vous n'aimeriez pas ça recevoir une douzaine de roses de votre mari? » Ah, mon ami, oui, je vois les femmes. Est-ce que vous dites « Amen, les femmes? » Là-bas, il ne faut surtout pas que tu fasses ça. Mais en tout cas, il faudrait que tu donnes 13 roses ou 11 roses. Mais voyez-vous, il ne faut pas donner des fleurs en paire. Les fleurs en paire, c'est uniquement pour les morts et les services funéraires. Fait que tu ne veux pas donner une douzaine de roses à ta femme parce que tu es en train de donner un autre message. Tu comprends? Tu en donnes 13, tu en donnes 11, mais surtout pas 12. Une autre culture. Mais à force de s'approcher de la culture, ma fille a resté là pendant 3 mois, L'Ukraine était de plus en plus familier. Et c'est comme ça avec la Bible. Ce matin, on va se retrouver dans un passage qui est beaucoup plus juif que d'habitude. Alors, c'est un langage juif, mais on va essayer de démêler ça. Mais soyez patients avec moi, d'accord? C'est un passage qui est un peu... des belles choses là-dedans, et puis on va apprendre l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies à travers ce passage-là. Et on va lire dans Romains chapitre 8, si vous avez votre Bible avec vous, et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Alors, Romains 8, 1 à 11. Romains 8, verset 1, et on va lire jusqu'au verset 11, d'accord? Voici ce que dit la parole de Dieu. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et là, je vais entendre un gros « Amen ». Hein? Ou est-ce qu'on fait comme la semaine dernière? Hein? Les femmes, oui, puis les hommes, non. Amen. Alors, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Oui. Amen.
Ah, c'est super. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, c'est-à-dire m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accompli en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie, à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Certains considèrent Romains 8 comme étant le plus beau passage du plus beau livre de la Bible. Et ce qui rend ce passage vraiment magnifique, c'est la description de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est assez absent avant, voilà qu'à partir de ce chapitre-là, juste dans ce chapitre-là, on va voir le Saint-Esprit revenir plus de 21 fois. Et presque, ça, c'est l'équivalent d'une moyenne de mentionner le Saint-Esprit presque aux deux versets. Alors même que le passage qu'on penserait, qui parlerait le plus souvent du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 11, 12, 12, 13, 14, là, où on parle des dons du Saint-Esprit, en parle une moyenne une fois sur trois versets. Donc ici, en fond, on parle plus souvent du Saint-Esprit même que dans 1 Corinthiens. Mais le chapitre n'est pas tant sur la personne du Saint-Esprit que sur son œuvre. En fait, ce sont les bénédictions, les privilèges que le Saint-Esprit accorde aux croyants qui représentent vraiment le thème de ce chapitre. Et si tu pouvais résumer tout ce qui est dit dans ce chapitre-là avec un seul mot, voici le mot que tu dirais, le mot « assurance ». Le mot « assurance ». Paul va faire des contrastes dans ce passage entre les chrétiens et les non-chrétiens, entre les œuvres de la chair et les œuvres du Saint-Esprit, ici étant les non-croyants et les croyants, entre la loi et l'Esprit-Saint. Et l'une des choses qui va ressortir dans ce passage, c'est les nombreux privilèges que nous avons comme enfants de Dieu. Et l'un de ces privilèges qui va vraiment ressortir très fort dans ce passage, c'est que Dieu fait maintenant sa demeure en nous. On va voir d'ailleurs très souvent, au verset 9, par exemple, où on voit le passage qui nous dit que l'Esprit-Saint demeure en nous. Nous lisons au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Avez-vous remarqué la Trinité ici? L'Esprit de Dieu habite en vous, l'Esprit de Christ. Alors, vous avez l'Esprit, vous avez Dieu qui représente le Père ici, et vous avez Christ, vous avez les trois. Donc, c'est une question que je pose parfois lorsque je rencontre des témoins de Jéhovah. Je dis, laisse-moi te poser une question. Je dis, as-tu l'Esprit du Christ en toi? Et ça, ça les déroute, là, parce que là ça parce que c'est très sévère, c'est très sérieux, parce qu'ici, ça dit que si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi, tu ne lui appartiens pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alors, c'est très sérieux. Verset 9 dit donc, « L'Esprit de Dieu habite, on a le mot « habiter » ici, « habite en vous ». Verset 10, « Christ en vous ». Verset 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous ». Voyez-vous comment ça revient souvent? Il y a une raison pour ça, on va le voir plus loin. « Habiter en vous ». Ça dit « en vous, habite en vous ». Alors, ce passage montre à quel point le christianisme est vraiment différent des religions. Parce que les religions ne montrent pas un Dieu aussi intime, aussi personnel. Oui, la Bible dit que Dieu est immanent, transcendant, spirituel, mais il est aussi personnel. C'est une relation. Nous avons une relation avec Dieu. Alors, Dieu est à la fois proche, mais loin. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi? Lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, tu te reconnais pécheur, tu reconnais que Jésus est allé à la croix pour toi et tu reçois Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Eh bien, ce passage montre trois bénéfices, vraiment, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi. Premièrement, le Saint-Esprit te donne une nouvelle liberté, une nouvelle vision, puis il accomplit une nouvelle œuvre en toi aussi. Alors, le Saint-Esprit nous donne une nouvelle liberté. Regardez le verset 1. Qui dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Maintenant, dans le texte original en grec, le premier mot, là, quand l'auteur choisit de mettre un mot au début de la phrase, c'est parce qu'il veut mettre l'accent, il veut mettre l'intensité, très souvent. Alors, le premier mot dans le texte original, c'est quoi? C'est « non ». C'est ça. « Non ». Littéralement, le mot veut dire « aucune sorte ». Il y a quelques particules, quelques mots dans l'original qu'on peut servir pour dire « non ». Ici, le mot qu'on a choisi veut dire « aucune sorte ». Et l'endroit où le mot est placé dans la phrase marque vraiment toute une intensité. C'est « emphatique » qu'on dit. Littéralement, on se fait corriger par des professeurs de français, là, mais littéralement, si on prend l'original, littéralement, ça dit ceci. « Aucune sorte maintenant de condamnation ». Aucune sorte, maintenant, de condamnation. Maintenant, ça me semble étrange, mais c'est très clair pour ceux qui connaissent le grec. Les Grecs d'autrefois, c'était très clair ce que Paul est en train de faire, ce qu'il est en train de dire ici. Alors, ce que Paul est en train de dire, et sur lequel il met beaucoup d'accent, c'est qu'il n'y a maintenant aucune sorte de condamnation pour le chrétien. Qu'il s'agisse du passé, du présent ou de son avenir. La condamnation est disparue à jamais. Maintenant, dans le milieu chrétien, là, nous, là, je sais, il y a des gens qui disent, « Ben oui, c'est ça, c'est quand on vient à Jésus-Christ, on est libéré, etc. » Oui, oui, tu parles comme ça, mais moi, je sais fort bien, après avoir passé plusieurs années dans le ministère, puis rencontré des gens, puis écouter des gens nous raconter un peu leurs témoignages et ce qu'ils vivent, je sais très bien que plusieurs personnes vivent encore sur de la culpabilité. Ils vivent dans la peur. Vois-tu, dans le milieu chrétien, on a une tendance à croire que le chrétien est sauvé par la grâce. On dit, oui, ça c'est bon, amen. On est sauvé de nos péchés, on reçoit la vie éternelle, et ça c'est par la grâce. Puis après ça, c'est le système D, débrouille-toi. Mais Paul nous dit ici que non seulement tes péchés du passé, présent, et même ceux que tu vas commettre dans 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ont été réglés. C'est pardonné ça. C'est fini. Les péchés que tu vas commettre même dans 15 ans ont déjà été couverts et pardonnés par le sacrifice qui est parfait et suffisant de Jésus-Christ. Maintenant, certaines personnes ici ce matin, vous êtes ici ce matin. D'ailleurs, même j'ai quelqu'un juste entre les deux périodes qui me racontait qu'il a rencontré quelqu'un hier, qui lutte avec ce poids, cette charge sur les épaules, une peur continuelle, malgré qu'il est un enfant de Dieu. Alors, on sait qu'il y a des gens ici que vous vivez. Vous êtes convaincu que vous avez été justifié, vous avez été pardonné pour vos péchés, mais vous vivez sous le poids de la culpabilité, comme si tu attendais une condamnation qui va s'abattre sur toi un jour. Imagine vivent toujours comme ça. D'ailleurs, j'ai rencontré des chrétiens qui même vivent avec une peur continuelle parce qu'ils ont peur de perdre leur salut, parce qu'ils ont sous l'impression qu'il faut toujours qu'ils le gardent. Ils ont été sauvés par la grâce, mais il faut donc faire attention à comment ils vont vivre, parce que si jamais là, ils tombent dans le monde et tout ça, ils vont perdre le salut. Alors, ils vivent dans une crainte continuelle, une peur bleue que la condamnation va s'abattre sur eux autres. Alors, ils sont constamment en train, ils ont cette angoisse, cette peur, et ils vont toujours chercher à essayer de prouver qu'ils sont comme sur la ligne, sont corrects. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que le Saint-Esprit puisse rappeler à ton cœur que tout a été réglé. Que même les péchés que tu vas faire dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ont déjà été réglés à la croix. Et ça, c'est magnifique. Quel relâchement, quelle tranquillité dans le cœur. Tu as une nouvelle relation maintenant avec Dieu. Il n'y a aucune sorte de condamnation qui t'attend. Tu ne peux pas rester dans cette crainte. Parce que vivre dans la crainte, ça va nous affecter. Ça va affecter comment on pense, comment on prie même. Ça va nous donner la peur, l'angoisse même. Ça affecte même la façon qu'on va recevoir des critiques. Les gens vont te critiquer. Et même là, ça va de suite. Il y a une introspection qui va se faire. Je ne suis pas correct. Ça te met en envers. Il n'y a pas personne qui aime ça se faire critiquer, disons-le. Mais il y a une peur qu'on peut traîner qui rend les critiques encore plus lourdes. On est sur la défensive. On peut même faire de l'angoisse dans certains cas. On va souffrir d'insécurité. On va manquer d'assurance. On va perdre la joie. Il y a des gens qui vivent, des chrétiens qui ne peuvent pas connaître la joie parfaite dont Jésus parle. Ils ne sont jamais assez bons dans leur cœur. Ils vivent cette peur, cette crainte, sous une continuelle, comme une épée d'Amoglès qui est sur les épaules, qui est sur la tête. À tout moment, Dieu peut frapper. C'est parce que ces gens-là vivent, ils ont peur encore de la condamnation. Parce que ces gens-là vivent, dans le fond, et c'est ce que Paul est en train de nous emmener, de nous faire comprendre. Il prend un langage juif, là, mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est que nous avons maintenant une relation, notre relation avec Dieu, c'est différent, c'est pas une question légale, c'est maintenant une relation qu'on a. Un pasteur a fait cette comparaison que je trouve vraiment bien. Il dit, il y a une grande différence entre croire que tu as violé la loi et croire que tu as brisé une relation. C'est vraiment différent, là. Il dit, une grosse différence pour un homme qui viole une loi dans la ville et un mari qui fait quelque chose qui n'est pas correct envers sa femme. Il dit, celui qui offense sa femme n'a pas brisé la loi, là. Il a blessé le cœur de sa femme, mais c'est ça la différence. Ce n'est pas une question légale, c'est une question de relation puis d'amour. Il dit, un homme ne cesse pas d'être le mari parce qu'il a fait quelque chose de mal avec sa femme. La loi n'entre pas dans le portrait. Tu as péché, oui, et est-ce que tu devrais te sentir mal? Oui, absolument, tu veux réparer, restituer. Mais dans le fond, ton péché, c'est un péché contre l'amour. C'est très différent. Mais agir comme si on vivait comme si c'était quelque chose de légal, on vivrait comme sous la loi. Tu peux avoir une relation, tu peux voir ta relation comme excitante, intime et joyeuse avec ton époux ou ta femme, tu es dans une relation, ou tu peux la voir comme du travail, comme une tâche. Et on rencontre des couples comme ça. Ils parlent de leur mariage, ils ont perdu cette flamme, cette excitation, cette fraîcheur. Mais on peut la voir comme étant une relation excitante, joyeuse, intime, ou on peut la voir comme un devoir, une liste de tâches à accomplir. Si tu agis correctement avec ta femme, si tu fais les bonnes choses que tu devrais faire, tu le fais parce que c'est ta job, tu devrais le faire, c'est un devoir, un sentiment de devoir. Ou tu as carrément peur de ce qui pourrait arriver si tu ne le fais pas. Ou c'est parce que tu ne veux pas te sentir coupable. Alors, imagine-toi donc. Imagine le scénario, là, que ton conjoint, ton partenaire vient te voir et dit, écoute, j'aimerais ça savoir, en fond, là. Tu es vraiment gentil avec moi. Tu es tellement gentil avec moi. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu fais tout ce que tu fais pour moi. Tu m'aides pour la vaisselle, tu fais ci, tu fais ça. J'aimerais savoir pourquoi tu fais ça. Puis le gars te répond, ben, je n'ai pas le choix, c'est ma job. Pas le choix, j'ai tellement peur qu'il se pourrait arriver hein, si je ne faisais pas ça. Là. C'est parce que je ne veux pas me sentir coupable. Tu penses-tu que ta femme va aimer ça? C'est-tu vraiment romantique? C'est surtout comme, tu sais, comme dans un examen, il y a différentes réponses, puis à la fin, il y a un « up », ça dit aucune de ces réponses. C'est ça, là. Tu ne veux jamais dire ça à ta femme? Et pourtant, autant qu'on trouve ça complètement illogique dans nos relations, on fait exactement ça avec le Seigneur. Pas vrai? Hein, est-ce que je touche une corde sensible, là? Est-ce qu'on n'est pas de même avec le Seigneur? Ah, je vais prier. Est-ce qu'il faut? Je vais passer du temps avec le Seigneur. Je ne vais pas me sentir coupable. Tout d'un coup, je ne sais pas, j'ai tellement peur que ce qui pourrait m'arriver, je ne le sais pas. On fait exactement la même chose avec notre relation avec Dieu. Autant qu'on trouve ça ridicule dans notre vie de couple. Et ce que Paul est en train de dire, tu n'as pas besoin de faire ça. Tout était réglé. Il n'y a plus de condamnation. Ce n'est pas la façon de vivre ta vie chrétienne, de marcher par la loi. C'est fini, ça. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Et c'est ça que ça dit, Paul. Il dit, même la loi a été rendue faible. Même c'est le même mot en grec qu'on prend pour les gens malades. C'est pas la loi qui n'était pas bonne, c'est que tu as tellement péché, ton péché a rendu la loi inefficace même. Elle n'avait plus de pouvoir sur toi. Mais l'Esprit Saint, lui, a tout changé. C'est comme ça que tu dois vivre ta vie chrétienne. Te plaire en Dieu, parce que maintenant tu as une nouvelle relation. Tu es libre maintenant. Tu es un enfant de Dieu. Ah, c'est tellement rafraîchissant. Amen. Savoir ça. Alors l'Esprit nous donne une nouvelle liberté et aussi une nouvelle vision. Verset 5. Ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. C'est vraiment William Temple qui disait, votre religion, dans le fond, c'est ce que vous faites avec votre temps libre. C'est à quoi tu penses lorsque tu es seul, tu es dans la solitude, et lorsque, dans le fond, tu n'es même pas obligé de penser à rien, à quoi tu penses dans ces moments-là de tranquillité? Et ce qu'il voulait dire, c'est ce qui nous préoccupe. Qu'est-ce qui te préoccupe dans les moments de tranquillité et de solitude? À quoi t'occupent tes pensées? À quoi tes pensées tombent automatiquement, intuitivement, et quand tu as du temps libre? Une autre façon de le voir, c'est avec les ordinateurs. Ceux qui travaillent moins vraiment avec les ordinateurs, vous connaissez par défaut. Ça tombe par défaut. Alors, si tu ne mets pas une valeur dans l'ordinateur, par défaut, ça va tomber à la valeur que la compagnie a mise. Par défaut. C'est un peu comme la présomption d'innocence. Par défaut, je suis innocent, sauf si on arrive à prouver le contraire. Ça, c'est par défaut. Alors, à quoi tu penses? Où vaguent tes pensées lorsque tu te retrouves tranquille, où tu as du temps libre, puis tu n'es même pas obligé de penser, où tes pensées vont vaguer par défaut? Automatiquement, ça va où? Et c'est ça ta passion. Voilà ce que William Temple essayait de nous dire, de nous faire comprendre. C'est ça ta passion. Lorsque tu as peur et que tu as besoin d'être réconforté, que tu es frustré, que tu as besoin d'être consolé, lorsque tu es désespéré, que tu as besoin d'être rassuré, qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu pour aller trouver ta consolation? Quel est ton mécanisme de défense pour essayer d'absorber et de tolérer, d'encaisser cette pression qui est là, qui est supplémentaire? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Quand tu te chicanes en couple ou à quelqu'un d'autre, au travail, la pression du travail, et c'est intense, qu'est-ce que tu fais pour trouver instinctivement un peu de soulagement? C'est ça que tu affectionnes. Et ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que notre façon de penser va déterminer ta façon de vivre. C'est là que ça arrive. Qu'est-ce qui te motive? Et Paul est en train de nous dire que l'Esprit Saint nous donne une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser, une nouvelle affection, une nouvelle passion. Verset 5 dit, « Ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Maintenant, Douglas Moo a fait un excellent travail dans son commentaire sur Romains ici en disant qu'ici, ce n'est pas prescriptif, c'est descriptif. Il est en train de nous dire, voici ce que les chrétiens font. En d'autres mots, ce n'est pas à condition que tu vives selon l'Esprit. On a ça dans Éphésiens 5 où il dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit, etc. C'est important. Mais dans le passage ici, ce n'est pas ça qu'on est en train de voir. Il est en train de dire, les enfants de Dieu vivent selon l'Esprit et s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Le chrétien a de nouvelles affections maintenant qu'ils ont l'Esprit Saint. Et c'est ça l'un des privilèges vraiment d'avoir le Saint-Esprit en nous. Nouvelle passion pour Dieu. Nouvel appétit. C'est une description du chrétien ici. Un bel exemple, c'est avec le film, je ne sais pas si vous avez vu le film de Les chariots de feu. C'est sorti en 1981, ça a gagné 3 prix, meilleure musique, meilleur costume, meilleur film de l'année aux Oscars. Excellent film. Le film s'inspire d'une histoire vécue de 2 Britanniques concourants aux Jeux olympiques d'été en 1924 à Paris. Et ils mettent en contraste, le film met en contraste brillamment 2 genres de personnalités, la personnalité d'Abraham, Harold Abraham, et l'autre, Eric Liddell, qui était un chrétien. Et l'anglais Harold Abraham cherche à se mesurer à celui que l'on surnomme Eric Liddell, le volant Eric Liddell, l'Écossais volant. Maintenant, Eric Liddell était le fils d'un missionnaire en Chine, et c'était sa vision de retourner en Chine pour servir le Seigneur, justement, à temps plein là-bas. C'était un chrétien. Mais dans son parcours, tout en voulant devenir missionnaire, il a réalisé qu'il était super vite. Quand il courait, il dépassait tout le monde. Alors là, il a commencé à compétitionner. Là, il compétitionne, mais mon ami, il battait tout le monde. Alors là, ils ont dit, « Sais-tu, as-tu pensé d'aller aux Olympiques? » Alors, effectivement, il a commencé à courir, faire de la compétition et tout ça. Maintenant, il y a une scène assez touchante dans le film où sa sœur essaie de lui dire, de le convaincre, de lâcher ça, la course, puis tout ça. Voyons, pourquoi tu perds ton temps à faire de la course? Tu devrais aller en mission, en Chine. C'est vraiment une perte de temps à faire ça. Et à un moment donné, Eric Liddell lui répond, et sa réponse est devenue un classique à travers les années, et il dit ceci à sa sœur: « Je crois que Dieu m'a fait pour un but, pour la Chine. Mais quand je cours, je sens son plaisir. Quand je cours, je sens le plaisir de Dieu. » De l'autre côté, Harold Abraham est dépeint comme un homme agité, égoïste, colérique. Tout ce qu'il veut, c'est gagner, c'est sa vie. C'est ce qui le valorise. Toute sa valorisation est dans le fait de gagner. S'il ne gagne pas, s'il n'est pas le premier, là, tout s'abat, découragé, angoissé. Un homme impatient, sur la défensive, obsessif. Et sa seule source de sécurité lui venait de sa capacité de gagner, obsédé par le goût de gagner. Mais il y a un moment dans le film où justement il commence à réaliser qu'il court pourquoi au fond. Et là, il y a un moment où il fait de l'introspection, commence à réfléchir dans sa vie, etc. Et il est confronté avec la vie d'Éric Liddell. C'est déroutant, un gars qui était tellement calme comme Éric Liddell. Calme, avec cette paix-là. C'est déroutant. Et lui, il était agité, agressif même. Et là, il commence à faire de l'introspection et réfléchir sur sa vie pour réaliser, en fin de compte, il arrive à la conclusion. Je cours après quoi? Il dit, il me semble, toute ma vie, c'est de courir, courir, puis courir. Je n'arrête pas de courir, mais je cours après quoi? Voyez-vous comment c'était vide? Ça ne reposait pas sur grand-chose. Une des choses qui est vraiment frappante dans le film, c'est le style de Liddell, comment il court. Vous savez, aujourd'hui, c'est rendu très sophistiqué avec les coachs, la science et tout ça. Il y a même des départements de recherche pour arriver au maximum. Le costume pour aller plus vite, gagner quelques dixièmes de seconde et tout ça. Là, comment tu t'habilles, puis tout ça. Puis, c'est rendu assez sophistiqué. Eric Liddell, tu avais un style épouvantable. Et ça faisait dur. Il avait la tête dans les airs, la bouche grande ouverte, puis il courait, les bras partout. Puis, tu sais, il y a une chose qu'on apprend quand tu fais du jogging. Moi, je suis abonné, je me fais croire que je suis un athlète, je me suis abonné dans une revue. Fait que parfait. J'ai dit, une revue de jogging. Alors, hey, je suis un jogger. Je suis abonné dans les revues. Fait qu'une des choses qu'on réalise en lisant des revues de jogging, c'est les mains, la technique, hein, d'aller comme si tu coupes la main, comment tu passes tes bras. Hey, Éric Liddell, lui, il s'en allait, il courait, puis. Et bon, c'est vraiment pas très beau. Puis avec le temps, avec les années, on a réalisé que peut-être qu'il y avait des exagérations, des petits changements, etc., dans le film, qui n'était peut-être pas tout à fait exact comme à l'original. Et ça a donné que quand le film est sorti, la sœur d'Éric Liddell vivait encore. Donc, ils sont allés la voir, puis ils ont demandé, ils disent, écoute, tu sais avoir une affaire, regarde ton frère, tu sais. Correct, hey, il a gagné la médaille d'or, tout ça, mais mon ami, il monte dans le film, un gars qui court tout croche, puis il court, là, puis tu sais, la tête dans les airs, puis il regarde, puis la bouche grande ouverte, puis les bras partout. Il dit, honnêtement, là, il courait-tu aussi pire que ça? Fait que sa sœur a dit, Jenny, Pas vraiment. Il est tapis. Il est tapis. Voyez-vous, lorsqu'Abraham courait, lui, il fixait ses yeux vers le but, vers la ligne d'arrivée. C'était son but. Il voulait gagner. Le seul but dans la vie, c'était ça, là. C'est moi, je veux gagner. Je veux être le premier. Pas le deuxième. Inacceptable. Je veux être le premier. Mais pour Lidl, Lidl courait avec un autre but. Lorsqu'on a demandé à Jenny d'expliquer pourquoi il courait comme ça, etc., elle a expliqué que lorsque Lidl courait et pourquoi il avait la tête vers le haut, vous savez pourquoi? Il courait pour le plaisir de Dieu. Imaginez. Il courait pour le plaisir de Dieu. Ah, il prenait plaisir en Dieu. Complètement différent. L'un fixait sur la ligne d'arrivée qui pouvait manquer, mais l'autre fixait ses pensées sur Dieu qui ne pouvait jamais manquer. Ce qui va se passer, t'as poussé, ce qui va te motiver dans la vie, c'est ça sur quoi tes pensées vont se diriger. Tes pensées, à quoi tu penses, à quoi, qu'est-ce que tu affectionnes, c'est ça qui va diriger vraiment ta vie, qui va te conduire. Ça a un impact sur toute ta vie. Autant qu'Abraham, Harold Abraham, était affecté par ce qui le motivait dans la vie, par son affection, ses passions dans la vie. Affecté, angoisse, peur, mal dormir. Tu as Harold qui court après quelque chose de fragile. Alors, il se retrouve avec quelque chose d'insécure, souvent fâché, la colère, la peur. Et certains parmi vous, vous êtes là, là. Vous courez, mais vous ne savez pas pourquoi vous courez. Vous êtes agité, angoissé, et je le sais. Je vous rencontre de temps en temps, je vous parle, j'écoute, et vous me le racontez, vous me le dites. Vous êtes comme Harold. Vous êtes toujours en train de courir, mais vous ne savez pas pourquoi. D'autres suivent Dieu, mais le font par peur. Ce qui les motive, c'est la peur, ou la tâche, ou le devoir, le sentiment d'être obligé de faire ce qu'on fait. On vit encore sur la loi, là. Mais les deux ne sont pas mieux, hein? Pour Lidl, c'est le contraire. Il ne court pas pour gagner le plaisir de Dieu, il court inspiré par le plaisir de Dieu. Il se plaît en Dieu, il peut courir sans inquiétude, il n'est pas alarmé s'il n'arrive pas de premier, il n'est pas tout à l'envers. Son monde ne tombe pas, c'est pas fini. Il est confiant, il y a cette tranquillité dans le cœur, cette paix. Et c'est ça que ça dit ici. C'est exactement ce que ça dit. Ça dit la paix. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voilà le fruit de l'esprit. Une nouvelle vision de la vie, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle priorité, une nouvelle passion, une nouvelle affection. Alors, lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il apporte une nouvelle liberté, une nouvelle vision. Et il accomplit une nouvelle œuvre en nous aussi. Dans l'Ancien Testament, il y avait un sacrifice qu'on offrait une fois par année pour le pardon des péchés. Et dans Lévitique chapitre 23, on parle de 7 fêtes juives et l'une d'elles, la plus importante en passant, dans le calendrier juif. Il célèbre encore cette fête-là aujourd'hui, en 2013. C'est la fête des expiations, le jour des expiations. Et c'est là qu'une fois par année, le souverain sacrificateur entrait, à l'époque, dans l'Antiquité, en tant que le temple existait, entrait dans le lieu très saint. Ou plutôt, il allait offrir un sacrifice pour ses péchés et pour les péchés du peuple. Et après ça, il prenait un peu de sang, entrait dans le lieu très saint et mettait le sang sur l'Arche de l'Alliance. Et c'était pour pardonner ses péchés et tout le péché du peuple. Mais attention, pas tous les péchés, seulement les péchés qui étaient involontaires. Ça ne couvrait pas tous les péchés, pas toutes les sortes. Ça n'enrayait pas toutes les sortes de condamnations, seulement une seule. Parce que voyez-vous, les péchés qu'on traînait dans le cœur, qui entachent la conscience comme l'envie, la convoitise et tout ça, ça ne réglait pas ces péchés-là. Alors, comment se libérer de cette sorte de condamnation de la conscience, d'avoir une conscience qui est finalement, ces péchés qui sont dans le fond de notre cœur. Et la réponse est justement dans le livre aux Hébreux. On sait qu'il fait allusion à la fête d'expiation. On va voir ça dans Hébreux dans un instant. Mais on sait que Paul est en train de faire allusion à la fête d'expiation parce qu'il va se servir d'une expression qu'on va retrouver 54 fois dans l'Ancien Testament, dans la version grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Septante. plus de 44 fois sur 54, c'est toujours employé pour le sacrifice d'expiation, et qui est employé ici pour Jésus-Christ. On le voit au verset 3. Ça dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, asténuée, là, comme la loi n'a pas d'impact. Alors, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, et soulignez ça là, ici, à cause du péché. Ça, c'est le sacrifice pour le péché. C'était l'expression qu'on employait dans l'Ancien Testament pour le sacrifice d'expiation. Jésus-Christ, dans une chair semblable à celle du péché. En d'autres mots, Dieu a fait le don de son Fils comme le sacrifice d'expiation qui allait couvrir tous nos péchés. Le texte dirait donc, Dieu a condamné le péché en envoyant son Fils pour être le sacrifice d'expiation pour le péché. Et verset 4 dit, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et maintenant, dans le livre aux Hébreux, nous voyons que le sacrifice parfait de Jésus-Christ a couvert tous les péchés, nous exempt de toutes les condamnations. Nous lisons dans Hébreux 9, 11, ça dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et le cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? » Voyez-vous, ce que le sacrifice de l'Ancien Testament ne pouvait faire, le sacrifice de Jésus-Christ purifie même votre conscience des œuvres mortes. Pourquoi? Afin que vous puissiez servir le Dieu vivant. Jésus est le sacrifice d'expiation. Il a payé pour tous les péchés. Les péchés volontaires, involontaires, tout. Et c'est la raison pour laquelle Paul peut dire au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi? Parce que Jésus a pris sur lui. Il a pris sur lui notre condamnation, sur ses épaules. Et comment ça nous affecte? Bien, nous sommes maintenant le nouveau temple, la nouvelle demeure de Dieu. La nouvelle maison de Dieu. Lorsque Jésus s'est offert en sacrifice, qu'il a rendu l'esprit, le voile s'est déchiré au complet, en haut jusqu'en bas, dans ce lieu très saint où on n'avait pas le droit d'aller, seulement le souverain sacrificateur. Et encore lui ne pouvait pas entrer à tout moment, seulement une fois par année. Et même lui, une fois par année, ne pouvait pas rentrer sans avoir offert un sacrifice avant pour ses propres péchés. Sans ça, il mourrait. Mais voilà que maintenant, le voile est ouvert, déchiré, et qui rend Dieu accessible. Mais il n'y a plus de temple. Où est le temple? C'est vous. C'est vous. Et d'où cette phrase qui revient trois fois, cette expression, Dieu en vous, l'Esprit en vous, Christ en vous, l'Esprit de Christ en vous. Dieu demeure en toi parce que toi, tu es le temple saint de Dieu où il a sa demeure. Imaginez? Alors, prenons plaisir en Dieu et marchons dans la sainteté. Car nous avons maintenant l'Esprit Saint en nous. Et on va terminer sur une petite présentation qui rappelle ce film où Éric Liddell a gagné la médaille d'or.